cette parole de l'homme de Capharnaüm, l'homme à l'esprit impur, c'est la toute première opposition que Jésus rencontre dans son ministère public, dans l'évangile de Marc en tout cas. Jusque-là, tout allait bien, prédication pleine de puissance et d'autorité, qui subjugue les foules. Appel des disciples qui quittent tout pour suivre Jésus. Jésus fait du buzz en Galilée. Et puis, il y a ce clash de la synagogue de Capharnaüm avec l'homme à l'esprit impur. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Un peu comme, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, comme Shimei, qui en avait après David, en voilà encore un sur la route de Jésus, en train de hurler. Tu es venu pour nous perdre. Cette parole dit, à sa manière, la vérité. Même si nous sommes plusieurs ici à penser, et Raphaël nous l'a bien rappelé ce matin, que Jésus est venu pour nous sauver et non pour nous perdre, je crois qu'il y a grand intérêt à prendre au sérieux cette parole que je qualifierais de prophétique de l'homme à l'esprit impur. Il n'est ni fou ni possédé. Possédé, c'est dans la traduction de la Tobe, mais ce n'est pas clairement expliqué comme ça. Parce que dans les évangiles, les impurs, ce sont ceux que la loi a déclarés impurs et a marginalisés. Exclus à cause d'une maladie, à cause d'une situation particulière qui est jugée par la loi incompatible avec la pureté rituelle. Alors en quoi cet homme est-il impur? Ce n'est pas dit. Mais une chose est sûre, la présence de Jésus le terrifie. Quoi entre nous et toi, peut-on lire dans le texte original? Tu es venu pour nous perdre. L'esprit de, s'il doit y avoir un esprit qui possède cet homme, je le nommerai ainsi, l'esprit de crainte, l'habite et n'est pas prêt à lâcher prise. Tu es venu, je peux le reformuler ainsi, tu es venu t'attaquer à ce « nous » auquel je m'identifie, auquel j'appartiens. Ce « nous » où j'ai ma place, ce « nous » communautaire, où j'ai ma place, où je me sens en sécurité, protégé. Oui, mais ça paraît paradoxal. Même en tant qu'impur, je m'y sens à ma place. Protégé, je ne sais pas, on pourrait dire par l'ordre établi, par la communauté qui est bien pensante, au sens où elle pense comme la loi le demande, où chacun est à sa place, où les rapports entre personnes pures, impures sont clairs, les rapports entre hommes, femmes sont clairs, entre prêtres et non-prêtres, entre convertis et inconvertis, tout est codifié, sans surprise. Et notre homme a besoin de ça, de ce monde sans surprise, auquel il appartient, même comme impur. Un monde sans surprise, un monde sans espérance non plus. Et voyant arriver Jésus, le voilà soudain se faisant avocat de ce « nous » communautaire qui pourtant le rejette. Il perçoit en Jésus une puissance destructrice de l'ordre établi, des sécurités collectives. Ça peut paraître bizarre, mais c'est somme toute assez fréquent. Il arrive que l'on soit plus attaché à sa souffrance, à ses peurs, qu'à la perspective que quelque chose change. La perspective d'une guérison aux conséquences imprévisibles, à la perspective d'une libération qui va nous entraîner on ne sait trop où. Chez Marc, c'est assez intéressant, on ne sait pas grand-chose de la prédication de Jésus. mais on sait qu'elle est puissante ou pleine d'autorité, c'est le même mot. Il prêche ceci, le temps est accompli, le temps est arrivé, le règne de Dieu s'est approché, il faut se convertir et croire à la bonne nouvelle. Mais il ne dit pas expressément ce qu'est cette bonne nouvelle. Et il ne précise pas expressément ce qu'il faut croire. Les scribes, eux, précisent tout. Le bien, le mal, le pur, l'impur, la vérité, le mensonge, le dedans, le dehors. Tout est clair dans le système des scribes. Jésus, lui, il appelle à se laisser transformer, bouleverser, entraîner par cette puissance qui accompagne sa personne et ses paroles. Il appelle des hommes à quitter tout ce qu'ils sont pour venir à sa suite, sans dire où il va, ni ce qu'il va faire. En fait, c'est ça qui est puissant dans sa personne et son message. C'est difficile de percer le mystère de cette autorité. Je me suis toujours beaucoup interrogé là-dessus. Si Jésus était venu apporter, je ne sais pas, une autre doctrine, s'il était venu fonder une nouvelle religion, ce qu'il n'a pas fait, eh bien, les gens auraient quitté leur vieille synagogue pour s'inscrire dans la nouvelle secte. Ils auraient quitté un système pour s'engager dans un autre système. Un petit peu comme les gens aujourd'hui passent d'église en église. On en voit qui passent du « nous historique réformé » au « nous charismatique branché ». L'inverse se fait aussi, mais un peu moins, il paraît. Ou encore au « nous évangélique équilibriste ». C'est ici, hein. C'est vrai que Jésus a développé ailleurs un enseignement clair et détaillé, comme dans l'évangile de Matthieu avec le sermon sur la montagne. Mais chez Marc, cet enseignement n'est pas précisé, ou très peu. C'est un appel à la confiance, doublé d'un appel à se mettre en chemin derrière lui. C'est aussi une puissance à l'œuvre, pas seulement une puissance de parole. Une puissance libératrice qui dit à l'esprit de crainte « Tais-toi, sors de cet homme ». Le message de Jésus chez Marc, c'est de la dynamite. Ça vous fait sauter les verrous de fer qui emprisonnent les gens et ça vous libère les prisonniers. C'est ça la prédication de Jésus. On ne sait pas trop ce qu'il dit, mais les faits, on le voit. Ça libère aussi les gens de leur peur d'exister. En réalité, cet appel du Christ à sortir de nos vies pour nous mettre en marche vers l'inconnu de Dieu est contraire, soyons honnêtes, à tout ce qui fabrique nos existences et nos journées. Nous prêchons la foi. Nous prêchons le lâcher-prise, nous prêchons l'aventure spirituelle. Mais nous sommes en réalité très attachés à nos repères, nos traditions, notre histoire, nos vérités, nos habitudes ecclésiales, et la liste ne s'arrête pas là. Hein, nos façons de chanter, nos accompagnements musicaux, tout. On pourrait faire une liste sans fin de ce à quoi nous sommes très attachés. L'appel du Christ fait peur. Et nous répondons, si nous sommes un peu honnêtes, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Vous savez, il y a deux manières efficaces d'éviter de rencontrer Dieu. Alors, ce n'est pas normalement le rôle que je dois tenir en chair dans une église que d'expliquer comment éviter de rencontrer Dieu. Mais allons-y quand même. d'éviter tous ces dérangements que Jésus vient apporter dans nos vies. Voilà deux façons. La première consiste à ne pas lire la Bible. Vous vous mettez ainsi à l'abri de la rencontre avec Dieu. C'est assez efficace. La Bible est peut-être le livre le plus vendu dans le monde, le plus diffusé dans le monde, mais c'est surtout le livre le plus empoussiéré du monde. Combien de Bibles sommeillent-elles au fond de nos bibliothèques en attendant désespérément un lecteur ? Ah, qu'elles sont belles, ces Bibles, aux pages cornées, aux reliures éventrées, pleines de coups de crayon, de taches de confiture. Qu'elles sont rares aussi, ces Bibles-là. Alors, maintenant, je vais vous parler de la seconde manière d'éviter de rencontrer Dieu. Eh bien, c'est aussi de lire la Bible. La lire comme un livre de recettes. La lire comme un livre de morale. Un livre dont on va sacraliser la lettre au détriment de la parole et du message. Un livre où je cherche des réponses, celles dont j'ai besoin, et dont j'évite soigneusement les questions, celles qui me dérangent. Un livre où je puise des munitions, ah oui, pour détruire celui qui ne pense pas comme moi, à coups de versets bibliques, hein. Mais voilà, Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos théologies, dans nos lectures, surtout quand ces lectures sont définitives et exclusives. Voilà les deux manières de ne pas rencontrer Dieu. Mais si par contre on ouvre les Écritures comme on regarde dans un miroir, là les choses peuvent devenir passionnantes. Je quitte un moment le nous communautaire, bien confortable, et je prends le risque d'une exposition personnelle à la parole de Dieu. Et devant le miroir des Écritures, c'est-à-dire que les Écritures me déchiffrent, il peut arriver que j'entende une voix. Une voix qui s'adresse à mes pensées impures, à mes pensées toxiques, à mes visions étriquées des autres et de Dieu. Cette voix que Jésus adresse avec autorité quand il dit « Sors de cet homme ». C'est encore moi que Jésus libère de l'inertie, du désespoir, de l'absurde. C'est moi qu'il délivre des filets où mon existence est ficelée. C'est moi qu'il envoie vers les autres quand il dit « Allez, viens, je te ferai pêcheur d'hommes ». Il y a un penseur magnifique qui s'appelle Søren Kierkegaard qui disait qu'il fallait lire la Bible comme un amoureux ou une amoureuse lit une lettre d'amour que lui envoie son chéri. J'espère que ça vous est déjà arrivé, ça. Quand on lit une lettre d'amour, on commence à avoir le cœur qui palpite, hein, on entre dans un état second, on s'isole vite dans sa chambre. On ferme sa porte, on lit intensément les mots qui sont là, on les lit de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Ça vous rappelle quelque chose ? De toute son intelligence aussi. Et pour vivre ce moment de grâce où la parole de Dieu devient notre unique boussole, il faut, et c'est dans ce « il faut », je mesure tout ce qu'il y a à faire et à laisser faire. Il faut que tout ce qui occupe la place en nous disparaisse. Sorte. L'apôtre Paul parlera de cet abandon à Christ comme d'une mort à soi-même. Le mot est très fort. Il n'y a pas plus fort que le mot mort. Et pour l'impur de Capharnaüm, cet accouchement dans la vie nouvelle, cette libération va se faire dans les cris, la douleur, la souffrance. Tout ce qui occupe en nous la place du Christ ne lâche pas facilement prise. C'est un combat à mort. Cessons de voir la parole de Dieu comme un plus dans notre vie, un plus parmi tout le reste. Non. La parole du Christ, c'est le tout qui remplit et fait dégager tout le reste. Cette nouvelle naissance ne va pas faire de nous des gens hyper spirituels, hein, qui n'auraient plus que des paroles pieuses à la bouche, mais simplement des êtres appelés, des êtres transformés, appelés à vivre l'évangile là où ils se trouvent, dans la foi et la reconnaissance. L'homme de Capharnaüm avait peur de voir son identité communautariste disparaître. Il avait bien raison d'avoir peur. Les hommes et les femmes du temps de Jésus fréquentaient les synagogues, on les voit ici rassemblés. Synagogue en grec, ça veut dire marcher ensemble. Certes, l'Église est aussi une synagogue, de ce point de vue. Un rassemblement où les membres apprennent à marcher ensemble et à former un corps. Mais le mot Église suggère autre chose que le mot synagogue ne dit pas. Ecclesia, qui a donné Ecclesia en latin et Église en français. Ecclesia en grec, ça veut dire être appelé dehors. Sors. Sors donc. Sortir pour vivre libre et annoncer la bonne nouvelle. Sors donc de ce corps qui est l'Église. Mon frère, ma sœur, que jamais en tout cas elle ne devienne pour toi un enfermement identitaire. Mon Église, c'est la meilleure. Voilà ce qu'on peut des fois entendre. Sors de ce corps. Mais que ton Église devienne plutôt le lieu d'où l'on t'envoie dehors, où tu viennes puiser force et vie pour devenir toi aussi pécheur d'homme. Amen.